Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie où depuis lundi, nous suivons Socrate, pas à pas dans les méandres de son procès. Les chefs d'accusation sont tombés mardi, hier la parole était à la défense et aujourd'hui, verdict.
Grâce à la bienveillante tolérance de la cour, le verdict ne saurait faire de doute.
Condamné à mort. Bonjour Luc Brisson.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, c'est à vous que l'on doit l'entreprise de retraduction des œuvres complètes de Platon, ainsi que plusieurs présentations de ces textes, dont une édition récente de l'Apologie de Socrate, qui va nous accompagner aujourd'hui en Garnier Flammarion. Récemment aussi, tout récemment, un livre sur Platon, disponible aux éditions du Cerf. Et c'est en votre compagnie que nous allons rejoindre l'enceinte du tribunal qui vient de prononcer le verdict fatal. Le tribunal est silencieux et c'est Leonard Cohen qui vous le décrit. Cet homme qui doit mourir car de sa voix est né un mensonge, chante-t-il. Merci, merci aux gardiens de la vérité, aux gardiens de la beauté et aux gardiens de la cité, rajouterait sans doute Socrate.
Now the courtroom is quiet, but who will confess? Is it true you betrayed us? The answer is yes. Then read me the list of the crimes that are mine. I will ask for the mercy that you love to decline. And all the ladies go moist, and the judge has no choice. A singer must die for the lie in his voice. And I thank you. For doing your duty, you keepers of truth, you guardians of beauty, your vision is right, my vision is wrong. I'm sorry for smudging the air with my song. La la la, la 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 la.
Remplacer singer, chanteur par philosophe, et cette chanson chante exactement le procès de Socrate. Alors Luc Brisson, la forme du procès est hautement dramatique, c'est la fin de vie de Socrate, mais c'est aussi ce qui fonde le début de l'histoire de la philosophie.
Oui, c'est ce que on peut tirer justement de la fin de l'Apologie, où Socrate estime et explique qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, si on regarde la vie de Socrate, on s'aperçoit que sa vie a été une succession d'entrevues où il cherchait en permanence, chez ses interlocuteurs, à trouver un sens à ce que ces gens faisaient. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc il interviewait des politiques et en estimant que ce qu'il disait était des mensonges. Mm-hmm. Les poètes, en disant qu'effectivement, ils écrivaient de très beaux textes, mais que ces textes étaient inspirés par les dieux, ne venaient pas d'eux. Et les seuls qui avaient grâce à ses yeux, c'était les gens de métier. Mais il leur reprochait la chose suivante, c'est-à-dire vous savez faire, vous savez construire un char, vous savez construire un bateau, mais quand vous êtes à l'Assemblée, vous ne savez strictement rien de ce qui est bien pour la cité, et parfois de conséquence, on ne peut pas vous faire confiance.
Quelle est votre interprétation de ce procès de Socrate? Qui a-t-on tué? Qui la cité d'Athènes a-t-elle tué? Un impie? Un dissident politique, un philosophe qui se met le trouble dans l'ordre public ou un corrupteur de jeunesse?
C'est plus compliqué qu'on ne le croit. Je pense qu'il y avait une raison politique. Et Paulin Ismar l'explique
qui était venu
bien.
Lundi dernier. Oui.
Cette raison politique était très claire. Autour de Socrate, dans l'entourage de Socrate, il y avait Alcibiade, qui est responsable de la défaite en Sicile, qui s'est soldée avec la mort de plusieurs milliers de soldats. Et autour de Socrate, il y avait Critias et Charmide, qui étaient aussi de la famille de Platon, et qui sont responsables de la guerre civile. Donc, politiquement, Socrate, qui était un critique de la démocratie, pouvait être assimilé à ceux qui avaient causé des catastrophes pour Athènes. il y a aussi, me semble-t-il, une raison religieuse, si on peut dire, non pas que Athènes condamnait quelqu'un qui était opposé au dogme de la religion, puisqu'il n'y avait pas de dogme dans la religion grecque, et il n'y avait pratiquement pas de prêtre au sens où on l'entend actuellement, mais la religion à Athènes était une religion civique. Et donc, lors des sacrifices et lors des fêtes, on demandait aux dieux de protéger la cité contre la défaite militaire et de donner à la cité la possibilité d'être, d'avoir du succès dans ses entreprises. Or, à l'époque, entre 429 et la mort de Socrate en 399, il n'y a que des catastrophes. Et donc la population masculine à Athènes, c'était la seule qui comptait pour eux, avait été réduite de moitié. Et par voie de conséquence, chez les juges, parce qu'il y avait plusieurs centaines de juges qui votaient pour ou contre Socrate, chez les juges, il y avait peut-être un sentiment de, je ne sais pas comment dire, un sentiment de culpabilité à l'égard des différentes divinités en disant, puisque Socrate se moque de certaines divinités et essaie de les remplacer par de nouvelles divinités, peut-être qu'il a attiré sur nous le courroux des dieux. Et donc, il y a surtout, me semble-t-il, et j'y insiste beaucoup, cette idée que Athènes étant une cité où la compétition était déterminante, Socrate renvoyait à leur ignorance les hommes politiques, les poètes et les gens de métier. Et je pense que ce faisant, et il le dit d'ailleurs dans l'Apologie, ce faisant, il avait mécontenté un nombre très important de citoyens qui lui en voulaient et qui ont essayé de se venger d'une façon ou d'une autre.
Alors vous faites référence à un passage très précis de l'Apologie de Socrate, qui, rappelons-le, est un texte écrit par Platon des années après la mort de Socrate, et qui met en scène Socrate, qui prend sa défense en quelque sorte, même si, et ça Paulin Ismar l'a très bien rappelé lundi dernier dans son ouvrage L'événement Socrate, la condamnation à mort de Socrate aurait pu être évitée par lui-même, parce qu'il avait à proposer une autre peine. Méletos, quand il l'accuse, lui propose la condamnation à mort. Si Socrate avait dit non, je préférais être exilé, il aurait pu être exilé. Il se moque un peu par provocation des juges et propose d'être au contraire, de résider dans un hôtel ou un lieu très chic, qui reçoit normalement les hôtes de marque, donc forcément on lui refuse la peine qu'il demande, et il est condamné à mort. Mais dans l'Apologie...
Je pourrais dire, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le procès était un procès qui se déroulait en deux parties.
Oui.
La première partie, on discutait de la culpabilité, la deuxième partie, on discutait de la peine. Et comme vous le dites très bien, Socrate se moque des juges qui, je le répète, étaient plusieurs centaines, en leur proposant d'abord d'être, non seulement de ne pas être condamné, mais d'être logé dans
un endroit somptueux
où on traitait les vainqueurs aux Jeux olympiques. Ensuite, il propose des amendes ridicules. Et donc, jusqu'à un certain point, Socrate est celui qui décide de sa propre condamnation.
C'est ça, ce qui pose toute la question de sa propre responsabilité.
Voilà,
dans cette condamnation à mort, est-ce un suicide, est-ce un sacrifice, est-ce un choix, est-ce une condamnation à mort? La question est complexe.
Mais c'était gênant pour lui, parce que si Socrate acceptait une amende, cela signifiait que tout ce qu'il avait fait jusque-là n'était qu'un jeu ou n'était qu'une présentation hypocrite. Et je pense que Socrate voulait vraiment montrer à ses concitoyens qu'ils devaient s'intéresser à se connaître eux-mêmes.
Voilà, ça c'est ce que Socrate raconte effectivement dans l'Apologie, donc j'y reviens, c'est l'épisode dit de l'oracle, dans lequel Socrate raconte le contenu d'un certain oracle et qui aurait annoncé que Socrate était plus intelligent que les autres. Et c'est très intéressant parce que dans ce texte, eh bien, à travers la plume de Platon, semble s'expliquer d'un coup presque les raisons de ce procès qui sont nombreuses et multiples, vous l'avez raconté, on ne sait pas si c'est vraiment à cause de son impiété ou de sa corruption des mœurs ou pour des raisons politiques qu'il a été jugé. Voici l'interprétation que Socrate lui-même en donne. Chéréphon, un ami d'enfance et un ami du peuple, un jour qu'il s'était rendu à Delphes, osa consulter l'oracle pour lui demander, et n'allez pas m'interrompre par vos cris, citoyens, si, en fait, il pouvait exister quelqu'un de plus savant que moi, Socrate. Or, la Pythie répondit qu'il n'y avait personne de plus savant. Considérez à présent pourquoi je vous parle de cela. C'est que je me propose de vous apprendre quelle est l'origine de la calomnie dont je fais l'objet. En effet, lorsque je fus informé de cette réponse, je me fis à moi-même cette réflexion. Que peut bien vouloir dire la réponse du dieu? Et quel en est le sens caché? Car j'ai bien conscience, moi, de n'être savant ni peu ni prou. Je décidai donc de mener mon enquête, et alors de rendre visite à ceux qui passent pour être des savants. Et le résultat fut que je m'attirai leur inimitié et celle des gens qui assistaient à la scène.
Chaque fois que je convainc quelqu'un d'ignorance, les assistants s'imaginent que je sais tout ce qu'il ignore. En réalité, juge, c'est probablement le Dieu qui le sait. Et par cet oracle, il a voulu déclarer que la science humaine est peu de chose, ou même qu'elle n'est rien. Et manifestement, s'il a nommé Socrate, c'est qu'il se servait de mon nom pour me prendre comme exemple. Cela revenait à dire aux humains, « Celui-là, parmi vous, est le plus savant qui sait, comme Socrate, qu'en fin de compte, son savoir est nul. » Cette enquête, je la continue aujourd'hui encore à travers la ville. J'interroge, selon la pensée du Dieu, quiconque, citoyen ou étranger, me paraît savant. Et quand il me semble qu'il ne l'est pas, c'est pour donner raison au Dieu que je mets en lumière son ignorance. Tout mon temps se passe à cela. Si bien qu'il ne m'en reste plus pour m'occuper sérieusement ni des affaires de la ville, ni des miennes. Je vis donc dans une extrême pauvreté, et cela parce que je suis au service du Dieu.
Ce texte est extraordinaire, Luc Brisson. La seconde partie a été interprétée par Michel Bouquet, parce qu'on y comprend, avec cet exemple de l'oracle, qu'à l'origine du geste socratique, de ces discussions relatées dans les dialogues de Platon, à l'origine de ce qui est devenu la philosophie, se trouve cet oracle qui affirme que Socrate a plus de savoir que les autres. Et pour essayer de vérifier le degré de validité de cet oracle, Socrate va effectivement aller voir tous ceux qu'il pense être savants pour se rendre compte qu'ils ne savent rien. Si bien que le texte termine en disant que finalement il a fait tout cela pour un dieu. Quelle ironie, lui qui a été accusé précisément d'impiété.
Oui. Non, ce passage est absolument extraordinaire. Premièrement, justement, parce que Socrate proteste contre l'accusation d'impiété dont il est victime. Mais il y a plusieurs autres éléments qu'il convient de faire remarquer. Premièrement, c'est très intéressant de la part de Platon de rattacher l'activité de Socrate à un oracle, parce que ça permet d'effacer complètement toutes les influences qui ont pu s'exercer sur Socrate. Donc, parce que il est dit dans le Phédon, au cours du procès, il y a une espèce d'autobiographie de Socrate où Socrate dit qu'il a étudié les savants qui s'intéressaient aux questions naturelles, Anaxagore, etc., etc. Et donc là, on a un commencement absolu avec l'oracle. Socrate est une origine absolu, dans la mesure où il répond à une décision ou à un décret divin. Donc ça, c'est la seconde chose. Donc première chose, une protestation contre l'accusation d'impiété. Deuxième chose, on fait de Socrate une origine absolue. Et je trouve ça très très beau donc de montrer comment Socrate est une origine absolue en tant que telle et sera l'origine de la philosophie. Mm. Et donc la troisième chose en ce qui concerne l'oracle, c'est une nouvelle conception du savoir. Parce qu'en fait, quand on parle de Socrate ou qu'on enseigne ses textes, la plupart des gens ne comprennent pas ce que signifie l'ignorance chez Socrate. Socrate, il sait très bien comment s'habiller, comment aller dans la rue, comment faire l'amour, puisqu'il a trois enfants, je sais pas moi, comment manger ou discuter argent avec ses interlocuteurs. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le savoir que prétend ne pas avoir Socrate, c'est un savoir qui ne se définit pas par des règles, des processus, etc., etc. Le savoir que recherche Socrate, c'est un savoir qu'on doit découvrir en soi-même. Et c'est ce que Socrate essaie de faire dans ce qu'on a appelé la réfutation en grec, c'est Hélénkos. Mm. Donc, ce que Socrate essaie de montrer, c'est la chose suivante. Le savoir qui vaut quelque chose pour un individu n'est pas un savoir qui est transmis par l'enseignement, c'est un savoir qu'il faut découvrir en soi-même. Et ce savoir, c'est un savoir qu'on découvre en discutant avec les autres.
Mais ce savoir est aussi celui de la certitude de ne rien savoir. En fait, ce texte aussi est aussi une illustration de cette fameuse phrase, qui est sans doute d'ailleurs pas jamais vraiment prononcée par Socrate, mais je sais que je ne sais rien. Oui. Finalement, le savoir, c'est savoir qu'on n'en sait peut-être pas plus que les autres.
Oui, mais c'est surtout un savoir qui ne correspond pas à des règles que l'on peut transmettre.
Et c'est donc ce serait une sagesse.
Oui, exactement. Et c'est la raison pour laquelle Socrate s'oppose aux sophistes. Parce que les sophistes, eux, veulent transmettre pour de l'argent des règles concernant l'usage du discours qui permettent d'avoir du succès à l'Assemblée et au tribunal. Et c'est ce que Socrate donc rejette, et en disant à ces gens-là, vous pouvez transmettre des règles, vous pouvez transmettre un savoir, mais ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous allez découvrir en vous-même. Et donc, ça permet à Platon de faire intervenir la question des formes et la question de l'âme.
On va suivre ce point de départ qui est quand même le début de la fin pour Socrate. On va se retrouver au sein du Phédon, aux côtés de Socrate. Ses amis viennent lui parler. Il vit ses dernières heures et on va entendre cette mise en scène de la vie de Socrate dans un feuilleton radiophonique diffusé sur France Culture. Et enfin, les dernières lignes du dialogue Le Phédon qui sont absolument bouleversantes et interprétées ici par Georges Clès.
J'arrive juste à temps, mes amis. Le soleil est couché. Le serviteur des onze ne va plus tarder.
Le voilà, justement.
Je sais, Socrate, que je ne vais pas avoir de reprocher ce que je reproche aux autres. Eux, ils se mettent en colère contre moi, m'injurient quand je les invite à boire le poison. Alors que je ne fais en cela qu'obéir à l'ordre des magistrats. Toi, j'ai eu le temps pendant ton séjour ici de bien te connaître. J'ai compris que tu étais à la fois le plus courageux, le plus doux et le meilleur des hommes qui soient venus ici. Maintenant, adieu. Tâche de supporter le mieux possible la fatalité.
À toi aussi, adieu. Je vais suivre ton conseil.
Allons, Criton, obéissons-lui. Demande qu'on m'apporte le poison s'il est broyé. Il est temps.
Mais Socrate, le soleil n'a pas tout à fait fini de se coucher. Il est encore sur les montagnes. Du reste, souvent les prisonniers attendent pour boire le poison très longtemps après le moment où on les avertit qu'il est l'heure de le faire. Certains boivent et mangent, m'a-t-on dit, d'autres préfèrent une dernière étreinte. En tout cas, ne nous précipitons pas, il y a bien le temps.
Ces prisonniers dont tu parles ont leur raison. La première est qu'il pense y gagner quelque chose. Mais pour moi, si j'agissais ainsi, je n'y gagnerais que de me rendre ridicule à mes propres yeux en m'accrochant ainsi à la vie.
Criton fit un signe à l'esclave qui se tenait tout à côté. L'esclave sortit et mit un certain temps avant de revenir, suivi de celui qui devait donner le poison et qui l'apportait tout broyé dans une coupe. Quand il vit l'homme, Socrate lui dit « Très bien, mon ami, c'est toi qui t'y connais, que faut-il faire ?»« Rien d'autre, répondit-il, qu'aller et venir après avoir bu, jusqu'à ce que tu sentes une lourdeur dans les jambes. À ce moment, allonge-toi. De cette façon, cela fera son effet. » En même temps, il lui tendit la coupe. Socrate la prit. Il porta la coupe à ses lèvres et, tout tranquillement, tout facilement, il la vida. Jusqu'à ce moment, nous avions pour la plupart réussi à nous retenir de pleurer. Mais quand nous vîmes qu'il buvait, qu'il avait bu, impossible, ce fut plus fort que moi, je laissais moi aussi couler mes larmes, à tel point que je dus me couvrir le visage pour pleurer sur moi-même. Car ce n'était pas sur lui, mais sur mon propre sort que je pleurais, en comprenant quel ami j'allais perdre. L'homme nous montrait que Socrate se refroidissait et devenait raide. Déjà presque toute la région du bas-ventre était froide. Découvrant son visage, car il se l'était couvert, Socrate dit, et ce furent là les derniers mots qu'il prononça, « Criton, nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette, ne soyez pas négligent. » « Bien sûr, » fit Criton, « ce sera fait. Mais vois si tu n'as rien d'autre à nous dire. » À cette question, Socrate ne répondit plus rien. Au bout d'un petit moment, il eut un soubresaut. L'homme lui découvrit le visage. Socrate avait le regard fixe. Voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Voilà, Échecrate, ce que fut la fin de notre ami. D'un homme dont nous pouvons dire que parmi tous ceux qui nous a été donné de connaître, il fut le meilleur, le plus sensé aussi, et le plus juste.
Drop of poison nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. J'aime ma ville avec une petite goutte de poison. C'est Tom Waits qui le chante et c'est ce qui se passe pour Socrate qui vient de boire la ciguë devant vous, chers auditeurs, dans ce texte du Phédon interprété par Georges Clès. Est-ce que, Luc Brisson, vous ressentez toujours la même émotion à l'écoute de ce texte, vous qui travaillez sur Platon depuis des années?
Oui, mais non, c'est quand même très surprenant que plus de 2000 ans de distance, on ressente ce même sentiment. C'est vraiment surprenant.
Parce que la description est très précise.
Oui, oui.
Ça aussi, c'est surprenant. On a le corps qui devient froid, le regard fixe. Mm-hmm. On voit Socrate en lisant ce texte.
Exactement.
Mort.
Et puis la fin aussi, les derniers mots de Socrate. Et,
Alors, voilà, ça c'est toute l'histoire de la philosophie qui a suivi Platon s'est interrogée sur cette phrase. Le dernier mot de Socrate aurait été « Criton, nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette, ne soyez pas négligent. » Qui est Esculape déjà, Luc Brisson?
Esculape, c'est le dieu de la médecine. Et donc, il y a des dizaines d'articles qui ont été écrits sur cette phrase, parce qu'elle est tellement énigmatique que personne ne peut estimait avoir donné la réponse. Cela dit, la réponse la plus, raisonnable semble être la suivante, c'est-à-dire que Socrate, qui pendant tout le Phédon a essayé d'une part de démontrer l'immortalité de l'âme, et lorsque il s'aperçoit que ses disciples ne suivent pas et sont tristes à l'idée qu'il va mourir, il raconte un mythe en leur disant « Bon, ben d'accord, si vous ne croyez pas à la puissance de la raison, vous allez croire quand même à la puissance du mythe. » Donc, dans le Phédon, il s'agit pour Socrate de montrer que, certes, son corps va être détruit, mais qu'il va continuer de vivre par son âme. Et je pense que ce qu'il veut dire par là, en disant qu'il faut offrir un coq à Esculape, c'est tout simplement « je viens guérir d'une maladie, qui est la maladie étant le fait pour l'âme de vivre dans un corps. » Je pense que c'est ce que ça veut dire. Cela dit, je ne suis pas sûr que que ça ne soit pas une interprétation platonicienne, parce que dans l'Apologie, Socrate ne semble pas être aussi sûr de la survie de son âme.
C'est la question qui se pose à la lecture du Phédon. Il essaye de montrer l'immortalité de l'âme en postulant un dualisme, à savoir que l'âme existe très bien sans le corps, ce qui le conduit à penser peut-être que le corps serait comme le tombeau de l'âme, justement, dit-il. Et en ce sens, la mort serait plus une libération que l'extinction de quelque chose. Mais rien ne prouve que lui-même le pense vraiment. C'est-à-dire peut-être est-ce un discours, comme vous dites, pour rassurer ceux qui sont autour de lui, qui, eux, ont vraiment peur de mourir. Exactement. Parce qu'on va entendre un texte ensuite. Socrate, lui, ne craint absolument pas la mort.
Il semble que ce soit le cas dans le Phédon, mais j'ai toujours été, en traduisant les textes, que ce soit l'Apologie, le Criton ou le Phédon, je me suis toujours posé la question de savoir s'il ne s'agissait pas là d'une interprétation platonicienne.
Vous voulez dire que Socrate aurait eu plus peur de mourir que Platon ne le dit ?
Était à cet égard assez agnostique, tout compte fait. C'est-à-dire, il devait espérer qu'effectivement, la vie ne s'arrêtait pas avec la mort du corps, mais il est très difficile de savoir ce qu'il en pensait vraiment. Et c'est une interrogation qui s'accentue si on lit Xénophon, par exemple, les mémorables de Xénophon. Là, on n'a pas un souci de l'immortalité de l'âme aussi évident.
Voilà. Et la question est d'autant plus passionnante et même brûlante que c'est exactement le genre de situation où l'on aimerait savoir ce que ressent le philosophe aux questions au moment de mourir. C'est le moment où la théorie, la pensée, la philosophie ou même la sagesse à laquelle il tend est mise à l'épreuve.
Oui, mais vous savez, je veux dire, il faut être aussi, comme je le disais tout à l'heure en ce qui concerne le savoir, il faut être aussi... il faut se poser des questions sur ce que pouvait signifier l'immortalité de l'âme pour quelqu'un, même comme Platon. Parce que nous, on pense à l'immortalité de l'âme, l'âme vivra éternellement, etc., etc., au paradis ou en enfer. Mais en ce qui concerne Platon, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'âme, en tant qu'âme, est immortelle, mais en tant qu'individualité, elle n'est pas immortelle. Elle passe par des cycles qui comprennent 10 périodes et l'âme peut passer d'un homme à une femme et d'une femme à des animaux, etc., etc., et remonter dans le cycle. Et au bout du cycle, cette âme perd son individualité. Donc,
là, on est assez proche des philosophies orientales.
Exactement. Et je pense que c'est très important pour comprendre Socrate et Platon. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que parler d'immortalité de l'âme chez Socrate et chez Platon implique une certaine dose de, sinon de scepticisme, du moins de relativisme.
Comment parvenez-vous à distinguer aussi bien Socrate et Platon ?
Parce que la pensée de Platon n'est que dans les dialogues. Oui, mais Socrate. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de la radio non plus. Donc on a trois témoins qui nous parlent de Socrate, donc Aristophane, Platon et Xénophon. Et donc les trois parlent d'un lieu très différent, c'est-à-dire qu'Aristophane, lui, c'est un comique, il faut qu'il garde son public et s'il veut gagner le prix, il faut qu'il les fasse rire.
Et c'est très réussi, et le Socrate dénué est à mourir de rire.
Cela dit, donc on a Platon, que je connais bien par ailleurs, puisque j'y ai consacré plusieurs années de ma vie, mais il y a aussi les mémorables de Xénophon. Et Xénophon, lui, parle tout à fait d'un autre lieu. Xénophon, c'est un citoyen d'une famille importante qui est avant tout un militaire et qui entraîne des mercenaires pour aller se battre en Perse. Et donc, lui a une conception, une vision de Socrate qui est beaucoup moins philosophique que celle de Platon. Et qui nous amène à une description de Socrate beaucoup plus terre à terre. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle, notamment depuis la nouvelle édition et la nouvelle traduction de Xénophon aux belles lettres par Louis-André Dorion et le texte de Bandini, Michele Bandini, donc on s'aperçoit justement que la figure de Socrate peut être transmise dans un contexte qui est beaucoup moins philosophique que celui de...
Et on trouve
Platon.
Notamment dans ces mémorables de Xénophon une très belle page où le narrateur s'adresse à Xanthippe, la femme de Socrate, en lui demandant de sécher ses larmes et de rendre hommage au fils même de Socrate. Mmh. Écoutez.
Je vous prie instamment de sécher vos larmes. Ces éclats prolongés de douleur peuvent vous faire du mal et jamais vous servir. Rappelez-vous les paroles de Socrate. Suivez ses préceptes. Imitez sa conduite. En vous abandonnant à la douleur, vous ferez tort à vous et à vos enfants. Rappelez-vous qu'ils sont les fils de Socrate et que vous êtes obligés non seulement de les soutenir, mais de vous conserver vous-même dans leur intérêt, de peur que si ou vous ou moi ou tout autre qui, après la mort de Socrate, devons veiller sur ses enfants, nous venions à leur manquer, il n'est plus de tuteur qui les protège. Je cherche de mon côté à vivre pour eux. Et vous n'en faites pas autant si vous ne prenez pas plus soin de votre personne. Le chagrin est une des choses qui sont le plus contraires à la prolongation de la vie, puisqu'il affecte la santé. Apollodore, surnommé le Doux, et Dion, vous louent de vous être refusé à accepter quoi que ce soit de personne et d'avoir déclaré que vous étiez riche. Vous avez bien agi. Car tant que moi et quelques autres amis, nous serons en état de vous aider, vous n'avez besoin de personne d'autre. Du courage, Xanthippe. Ne perdez rien de ce qui a appartenu à Socrate, sachant combien c'était en effet un grand homme. Pensez à sa vie et non à sa mort. Et toutefois, cette mort paraîtra toujours noble et excellente à tous ceux qui voudront la considérer avec réflexion. Adieu.
La tonalité est complètement différente ici dans ce texte de Luc Brisson, cette exhortation au courage. Le personnage de Xanthippe est très intéressant aussi. Elle apparaît dans le Phédon.
Dans le Phédon aussi.
Socrate lui demande de quitter la pièce parce qu'elle pleure.
Elle est un peu maltraitée parce qu'effectivement, elle a raison de pleurer, mais quand même,
mais elle
Socrate
a pas trop le droit.
Est un peu dur avec, avec elle.
À l'inverse de Xénophon qui,
exactement,
au contraire, décrit ce à quoi peut continuer à ressembler la vie après la mort de Socrate.
Mais vous savez, même chez Platon, je trouve qu'on a une description de Socrate qui est très, très humaine. Et donc, effectivement, Platon parle de Socrate dans un contexte plus théorique et plus philosophique. Mmh. Mais le Socrate de Platon est très touchant, très attachant, notamment dans le banquet, par exemple, et où il arrive en retard, où on dit qu'effectivement il s'est fait beau alors qu'habituellement il est en guenille, etc. etc. Donc le personnage de Socrate, décrit par Platon, est aussi attachant. Et donc on voit très bien, comme vous l'avez dit, que chez Xénophon, il n'y a pas cet aspect théorique, cet aspect philosophique.
Ce qui fait que Xénophon est aussi fidèle à l'époque même dans laquelle s'inscrit cet événement. Il faut bien garder en tête que très peu de temps après le procès, beaucoup de personnes se prononcent finalement en faveur de Socrate et que une décennie, voire quelques décennies plus tard, c'est assez progressif, mais Socrate est complètement réhabilité aux yeux de la démocratie athénienne.
Oui. Non, mais vous savez, je veux dire, je ne sais pas si Paulin Ismar en a parlé, mais je veux dire, la période qui va de 430 jusqu'à la mort de Socrate
399.
Est marquée par des soubresauts très inquiétants de la démocratie. Et donc c'est probablement la raison pour laquelle on a voulu faire taire Socrate, qui était un critique de la démocratie. Mais après la mort de Socrate, les choses s'apaisent, non à cause de la mort de Socrate, mais parce que la situation se calme. Et jusqu'à la bataille de Chéronée, où les Grecs vont perdre aux mains des Macédoniens, pendant près d'une génération, il y aura un calme relatif dans la démocratie athénienne. Et c'est ça qui explique en grande partie, à mes yeux, la réhabilitation du personnage de Socrate. En fait, on s'est aperçu que les critiques de Socrate à une époque de troubles correspondaient probablement à la réalité.
Il faut garder en tête quand même que ce procès, surtout tel qu'il a été décrit par Platon, permet de proposer un portrait très juste de Socrate, philosophe, même s'il y a un Socrate qui est sans doute qui ne croit pas au Dieu, un Socrate quasiment dissident politique, adversaire de la démocratie. Et la grande valeur ajoutée de ce texte qui s'appelle l'Apologie de Socrate, c'est de mettre en scène Socrate qui se défend lui-même au nom de la philosophie qu'il a prônée toute sa vie et qui montre que le geste même d'accepter de mourir et donc de se donner la mort, puisqu'il va boire la ciguë, est tout à fait cohérent avec l'enseignement qu'il a dispensé tout au long de sa vie. Je vous propose qu'on écoute la fin de l'Apologie de Socrate, qui est donc le discours final écrit par Platon, dans lequel Socrate s'adresse directement au juge. Mmh. Écoutez ce qui ressort ici, ce qui est sans doute du coup le plus essentiel pour lui dans la philosophie qu'il a mise en scène. C'est assez surprenant.
Vous, juge, il vous faut être plein de confiance devant la mort et bien vous mettre dans l'esprit une seule vérité à l'exclusion de toute autre, à savoir qu'aucun mal ne peut toucher un homme de bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort, et que les dieux ne se désintéressent pas de son sort. Le sort qui est le mien aujourd'hui n'est pas non plus le fait du hasard. Au contraire, je tiens pour évident qu'il valait mieux pour moi mourir maintenant et être libéré de tout souci. Voilà pourquoi le signal ne m'a à aucun moment retenu. Et de là vient que, pour ma part, je n'en veux absolument pas ni à ceux qui m'ont condamné par leur vote, ni à mes accusateurs. Il est vrai qu'ils avaient un autre dessein quand ils m'ont accusé et qu'ils m'ont condamné. Ils s'imaginaient bien me causer du tort. Et en cela, ils méritent d'être blâmés. Pourtant, je ne leur demande que la chose suivante. Quand mes fils seront grands, punissez-les, citoyens, en les tourmentant comme je vous tourmentais, pour peu qu'ils vous paraissent se soucier d'argent ou de n'importe quoi d'autre, plus que de la vertu. Et s'ils croient être quelque chose alors qu'ils ne sont rien, adressez-leur le reproche que je vous adressais, de ne pas se soucier de ce dont il faut se soucier, et de se croire quelque chose alors que l'on ne vaut rien. Si vous faites cela, vous ferez preuve de justice envers moi comme envers mes fils. Mais voici déjà l'heure de partir. Moi pour mourir et vous pour vivre. De mon sort ou du vôtre, lequel est le meilleur? La réponse reste incertaine pour tout le monde, sauf pour la divinité.
Vous Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. C'est le quatrième et dernier temps de notre série, notre enquête philosophique sur le procès de Platon. Platon est condamné, de Socrate, pardon, quel lapsus. Nous venons d'entendre un texte de Platon, Luc Brisson, décidément. Platon auquel vous consacrez un livre, hein, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Socrate est donc condamné à mort. Il a bu la ciguë. Et ici, on entend les dernières phrases de son apologie, donc mise en scène par Platon. Donc on a eu la description de sa mort, et là, ben, il est à nouveau vivant, mais c'est parce que justement c'est Platon qui le met en scène pour expliquer ce geste, ce qui montre bien qu'il n'est pas clair, puisqu'il a besoin d'être expliqué autant de fois. Le texte est très dense, Luc Brisson s'y trouve beaucoup de choses, on va le lire ensemble, hein. On peut commencer par là. S'adressant au juge, Socrate dit, eh bien, il vous faut être plein de confiance devant la mort, vous mettre dans l'esprit une seule vérité à l'exclusion de toute autre, c'est donc la vérité ultime de l'enseignement socratique, à savoir qu'aucun mal ne peut toucher un homme de bien, ni pendant sa vie, ni après sa mort. Mmh. C'est un Socrate extrêmement optimiste qui s'exprime ici.
Mmh. Oui, je voudrais dire d'abord quelques mots sur le contexte. Donc, dans l'Apologie, c'est la troisième partie, le procès est terminé, et donc... Socrate s'adresse à ses juges qui, comme je vous l'ai dit, sont plusieurs centaines. Et c'est pour ça qu'il dit juge. Mmh. En fait, il s'adresse à des citoyens qui, en général, sont assez pauvres parce que ils acceptent d'être juges parce qu'ils gagnent un salaire minime pour leur fonction. Et il s'adresse à ses amis aussi. Donc, là, on n'est plus dans le procès, on est après le procès, et c'est les dernières paroles de Socrate à l'assistance. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que, vous savez, on passe très vite, mais je veux dire, il y a aussi cette idée que Socrate dit « le signe ne m'en a pas empêché ». Socrate estimait entendre une voix lui disant « ne fais pas ceci, ne fais pas cela, etc. etc. » Donc c'est une voix divine, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, ça n'est pas une voix qui donne des révélations, c'est simplement une voix qui empêche Socrate d'accomplir des actions qui ne seraient pas bonnes. Et c'est la raison pour laquelle Socrate dit effectivement qu'on ne peut pas faire de mal à un homme de bien. Mmh. Et donc ça, c'est toute l'éthique socratique, c'est-à-dire que et Platon essaiera de trouver une solution à cette difficulté. C'est-à-dire que pour Socrate, dès que l'on connaît le bien, on ne peut pas faire le mal.
C'est la fameuse phrase, hein, « Nul n'est méchant volontairement ou de son plein gré ». C'est-à-dire que la méchanceté a toujours pour cause l'ignorance.
Exactement.
Qu'on connaît le bien ne peut que faire le bien.
Oui.
Ce qui est vraiment une pensée pré-chrétienne.
Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette ignorance n'est pas une absence de savoir pratique. Cette ignorance est une absence de savoir moral. Et donc, effectivement, on peut toujours objecter à Socrate que ce n'est pas parce qu'on sait où est le bien qu'on ne fera pas le mal. Et c'est ce que Platon... c'est une difficulté que Platon va essayer de surmonter avec une doctrine de l'âme qui fasse intervenir... le désir et l'agressivité.
Reste que c'est un Socrate très moral qui apparaît ces lignes. Aucun mal ne peut toucher un homme de bien, lui-même. Mmh. Ce qui importe, c'est la vertu, et vous ferez preuve de justice envers moi comme envers mes fils. C'est-à-dire que, voilà, au moment de mourir, c'est cela qui lui importe.
Oui.
C'est la vie bonne, c'est-à-dire vertueuse et juste, et donc qui implique la vie collective, la dimension politique de l'existence, éthique.
Oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle il dit « si mes fils
commettent
une faute, punissez-les ». Donc ça montre bien
que
ça n'est pas une morale
autres,
individuelle, c'est une morale collective. Ouais.
Il s'adresse aux citoyens en disant « quand mes fils seront grands, punissez-les, citoyens, en les tourmentant comme je vous tourmentais ». Il y a un souci de la transmission à l'égard de sa propre progéniture et qui implique les citoyens athéniens qui sont en train de le condamner dans ce processus d'éducation. C'est très fort.
Bah oui. Non, mais c'est exactement le message que Platon veut faire passer avec la fin de l'apologie. C'est exactement ça.
Et on a aussi l'idée qu'il n'en veut absolument pas aux citoyens. Il dit je n'en veux, il n'y a aucune rancœur.
Oui, mais je veux dire, parce qu'il y a trois maximes socratiques, et la dernière maxime, c'est qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Et donc, si vous acceptez cette maxime, vous ne pouvez pas condamner même ceux qui vous ont condamné. Je ne sais pas si je me fais bien entendre.
Si, tout à fait. C'est justement le dialogue dans lequel il dit qu'il est beaucoup plus aisé de vivre en ayant subi une injustice qu'en l'ayant commis. C'est la question de la responsabilité morale. Oui. Et dans ce sens, Socrate préfère mourir.
La responsabilité morale va jusque-là, oui.
C'est ça. Donc encore une fois, cohérence absolue avec ce qui a été énoncé avant, dans les dialogues précédents. Mmh. Et enfin, ce point aussi, je tiens pour évident qu'il valait mieux pour moi mourir maintenant et être libéré de tout souci. On retrouve l'idée de l'existence terrestre, corporelle, comme étant sinon un fardeau, du moins, ou une maladie, vous preniez cette métaphore tout à l'heure, comme étant quelque chose de transitoire dont il faut se séparer.
Je ne sais pas si il faut dire qu'il faut s'en séparer, mais en tout cas, ce que Socrate montre, c'est qu'on peut s'en séparer sans crise grave. Il faut accepter justement de mourir. Il ne faut pas rechercher la mort en tant que telle, mais il faut l'accepter. Et je pense que c'est ça la grande différence si on compare à des orientations religieuses actuelles ou qui sont relatives aux religions que l'on connaît. C'est-à-dire on ne recherche pas la mort pour la mort, mais on l'accepte quand elle survient.
Mais c'est aussi une pensée où, vous l'avez dit, l'âme continue à vivre après la mort, donc l'approche peut être plus sereine à l'approche de la mort, quand on sait que cette mort n'est pas une fin de tout.
Oui, exactement, mais cette survie n'est pas une survie pour l'éternité, et n'est pas une survie qui...
Non, mais entre n'avoir plus de vie du tout et avoir 10 vies en plus, il y a quand même une différence,
exactement.
Qui
n'est
pas forcément
exactement.
Celle de l'éternité.
Non, ça c'est tout à fait exact, oui.
Ce procès est aussi le procès de toute une forme de pensée, et y compris de la postérité de l'histoire de la philosophie. Le procès de Socrate fascine encore aujourd'hui. On se demande si c'est le procès de la démocratie athénienne par elle-même, ou si c'est la figure de l'intellectuel dissident qui est jugé par la cité, qui ne peut pas admettre en son sein un élément aussi perturbateur. Comment, de votre côté, expliquez-vous cette fascination pour le procès qu'on ne cesse de remettre en scène, en réalité?
Vous savez, quand on lit Platon, par exemple, ce qu'on retient de Platon, ce ne sont pas les solutions, c'est la position du problème. Et je pense que ce qui continue de fasciner chez Socrate, c'est qu'il milite, enfin, je n'aime pas le terme, qu'il se bat pour que chaque individu se pose des questions sur ce qui lui permet de vivre. La question est de savoir quel est le sens de ma vie. Et ce qui revient à dire, quelle serait la raison qui ferait que j'accepte de mourir. Et donc, je pense que c'est vraiment la question qui se pose dans l'apologie.
Trouver un sens à sa vie, c'est trouver la raison pour laquelle on serait prêt de mourir.
Exactement.
À mourir.
Et je pense que c'est la mort de Socrate qui justifie cette interprétation de l'apologie. C'est-à-dire que Socrate est prêt à mourir pour les idées qu'il même pas pour les idées qu'il défend, mais pour les questions qu'il pose à ses concitoyens. Et donc, il ne peut pas admettre que ses concitoyens continuent de vivre sans se poser ces questions. Et c'est pour ça que la polyphonie est une œuvre tellement puissante, c'est-à-dire que vous avez devant vous quelqu'un qui accepte de mourir comme témoignage de sa propre existence. Il a passé sa vie à demander aux gens pour quelles raisons il vivait, et lui est prêt à mourir pour continuer cette pratique.
Mais qu'est-ce que ça aurait changé s'il avait fui, s'il avait écouté Criton
qu'il
L'héritage aurait été le même.
Non, quand même, je dis, c'est, quand quelqu'un accepte de mourir pour ses convictions, on se situe tout à fait dans un autre, dans un autre contexte. Je veux dire, si Socrate avait accepté que ses copains et ils étaient là au procès, Criton notamment, qui était un homme riche et qui pouvait bien payer 30 mines, c'était à peu près 2 ans de salaire, donc ça allait. Si Socrate avait accepté d'être condamné et s'il avait accepté de partir, ça signifie que tout ce qu'il avait fait jusqu'à ses 70 ans, ça n'était qu'un paravent, ça n'était qu'une pratique hypocrite, ça n'était rien. Et donc, il voulait vraiment montrer que ce qu'il avait fait, il était prêt à mourir pour que cette pratique se poursuive. Je pense que c'est ça qui donne la puissance à la polyphonie. On accepte de mourir. Pourquoi accepte-t-on de mourir? Voilà.
Depuis la condamnation de Socrate, nous ne manquions pas un seul jour d'aller le voir. Comme la place publique où le jugement avait été rendu était tout près de la prison, nous nous y rassemblions le matin et là nous attendions. En nous entretenant ensemble, que la prison fut ouverte, et elle ne l'était jamais de bonheur.
La mort de Socrate. Par Éric Satie. Pour terminer cette émission en votre compagnie, Luc Brisson, un grand merci d'être venu nous parler du procès de Socrate à ce micro. Je renvoie les auditeurs à votre édition de l'Apologie de Socrate et du Criton, récemment paru en Garnier Flammarion, ainsi que votre livre sur Platon, cette fois-ci, mais évidemment, il y a beaucoup de questions de Socrate, aux éditions du Cerf. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Pour votre journal de la philo, vous nous faites toujours le point sur l'actualité philosophique. Que se passe-t-il aujourd'hui dans...
Alors aujourd'hui,
dans l'actu.
Lundi prochain, plus précisément, oui. Le 2 octobre, aura lieu à Strasbourg toute une journée d'études sur philosophie et méditation. Alors une rencontre a priori étonnante, puisque la méditation, certes très en vogue, semble boudée par les philosophes, ces êtres rationnels, plus amoureux de développement logique que de développement personnel. Mais est-ce une rencontre si étonnante? Les liens entre méditation et philosophie sont-ils si chahutés? Reza Moghadassi, professeur de philosophie qui organise et participe à ce colloque, revient sur cette idée reçue et les préjugés que l'on a sur la méditation.
Le terme de méditation est un terme qui peut renvoyer à toutes sortes de sens très très différents. Nous le connaissons bien, nous, dans le monde de la philosophie, à travers la réflexion sur les concepts, sur les idées, comme Descartes a pu parler des méditations métaphysiques. Mais ce qui donne une résonance médiatique au terme de méditation aujourd'hui, c'est pas cette méditation-là, c'est une forme de pratique qui est perçue comme quelque chose qui vient d'Orient, inspiré notamment du bouddhisme ou des yogas de l'Inde. Mais précisément, à travers ce colloque qu'on organise, on voudrait davantage clarifier ce qu'on entend exactement par méditation et peut-être sortir de cette idée reçue selon laquelle il s'agirait d'une pratique exotique à la tradition occidentale et à la tradition philosophique qu'on importerait artificiellement et qui lui serait étrangère. Comme on peut le voir dans le milieu parfois philosophique universitaire, qui a tendance à penser que la méditation relève du développement personnel, avec tout ce que ce terme a de péjoratif dans la bouche des philosophes universitaires.
Les exercices spirituels des antiques, travaillés par Pierre Hadot notamment, la pensée orientale, et bien sûr, comme l'a rappelé Reza Moghadassi, Descartes et ses méditations métaphysiques, autant de liens tracés entre méditation et philosophie. Mais si la méditation n'est plus celle que l'on réduit au bien-être personnel, quel sens philosophique lui donner? Qu'est-ce que méditer en philosophie? Quelles en sont les formes?
Il y a d'abord, bien entendu, l'intelligence discursive et conceptuelle, qui est la linéarité d'un raisonnement, d'une démonstration, d'une justification rationnelle, que la philosophie connaît bien, et qui produit le savoir, un certain savoir. Il y a quelque chose d'autre qui est très important en philosophie, c'est ce que j'appellerais une méditation, une intelligence digestive. C'est-à-dire que la philosophie, elle n'est pas simplement un agencement d'idées, même logiquement et avec une certaine nécessité, elle est cette capacité pour l'intelligence d'essayer de digérer une vérité ou une pensée en la ruminant, comme disait Nietzsche. Et donc, il faut s'arrêter sur une pensée. Il faut y revenir, en dépouiller les conséquences. Et puis, il va se produire cette sorte d'alchimie à l'intérieur de notre être qui fait qu'on passe d'une vérité qu'on a à une vérité qu'on est. Et ça, c'est très important. Mais quand on parle de méditation, c'est pas encore de celle-là dont on parle. C'est encore une autre forme de réflexivité qui renvoie cette capacité qu'a la conscience de devenir l'observateur de ce qui est autour de nous, mais de ce qui est en nous. C'est-à-dire observateur de ses sensations corporelles, observateur de ses émotions, observateur des différentes pensées qui surgissent en nous.
Loin donc d'être une activité concurrente ou une activité repoussoire liée à la religion et aux croyances irrationnelles, méditer semble compléter le processus logique, contemplatif et réflexif qui accompagne l'activité philosophique. Celle-ci pourrait même s'en inspirer si ça n'est pas déjà fait.
Si on prend la méditation non plus comme travail des concepts, mais comme une pratique qui consiste à observer à travers ce qu'on appelle aussi la métacognition, c'est-à-dire à observer le processus de ses pensées, le processus à travers lequel nos sensations s'enchaînent ou bien nos émotions, là, c'est clair qu'il ne s'agit pas directement d'un travail conceptuel. Et pourtant, la philosophie semble avoir grand intérêt à s'intéresser à cette pratique, et d'ailleurs, elle l'a fait en partie, pas à travers les courants les plus rationalistes, mais par exemple à travers la phénoménologie, puisque dans la phénoménologie, il y a cet intérêt pour l'expérience et essayer de décrire ce qui, dans l'expérience, est libre de tout ce que l'entendement ou la raison a pu y ajouter à travers ses dualités et ses concepts habituels.
Le colloque a donc lieu ce lundi 2 octobre, c'est philosophie et méditation à Strasbourg, ça vous laisse le temps de vous organiser pour y aller.
Et de méditer.
Et de méditer, effectivement. Ça se passe précisément à l'Université de Strasbourg, à la faculté de psychologie, c'est dès 9h. Et on y parlera aussi bien de yoga, de bouddhisme, de zen et de scepticisme.
Merci beaucoup Géraldine, ces informations sont à retrouver en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Pauline Vermeren qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Azubert qui était la prise de son aujourd'hui et Georges Classe à la lecture des textes. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, je recevrai Dylan Trigg, chercheur à l'Université de Vienne, qui viendra vous proposer une phénoménologie de l'horreur à partir du film « The Thing ». De Carpenter, évidemment. Regardez-le ce soir, on en parle demain. Et d'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, où nous attendons vos remarques et commentaires, sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez toutes les informations musicales et bibliographiques concernant l'émission du jour et cette série sur le procès de Socrate. Vous pourrez également réécouter toute la série ou la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter à l'heure et au lieu de votre choix. Rendez-vous demain à 10h donc pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.